de repères au sol. Alors que l'accessoiriste disait, sans repères au sol, on ne peut pas faire une scène de cinéma. Il disait, écoutez, vraiment, les repères au sol me gênent. Et donc, à l'issue de cette journée d'agression permanente de la part de l'accessoiriste, Etex l'a fait venir et lui a dit, écoutez, voilà, je voudrais vous dire que Monsieur Massot est un comédien que j'estime, même s'il n'a jamais fait de cinéma, et que la différence entre lui et vous, c'est qu'il est absolument indispensable pour mon film et que je ne peux pas me passer de lui. Par contre, je peux éventuellement me passer de vous. Et il a fait taire l'accessoiriste de cette façon-là, qui à partir du lendemain s'est mis à respecter un peu le travail de Massot, et qui, évidemment, est un comédien magnifique, et qu'on retrouve, qui joue la grosse dame qui perd ses perles dans
Yo-Yo.
Yo-Yo, et qui joue dans plusieurs films ensuite, des textes.
C'est-à-dire que Massot, dans Le Soupirant, impose un personnage qui est tout à fait bonhomme et qui est effectivement gentil, plutôt affable. Bon, j'en dirais peut-être moins, pas autant de la mère qu'on voyait dans Mon oncle, qui joue à la secrétaire qui reçoit d'ailleurs mon oncle. Et elle est plus rêche, elle est plus dure, alors que lui est assez affable comme personnage. Mais disons que dans Le Soupirant, il y a comme ça une espèce d'harmonie dans cette famille où personne ne communique.
Bien sûr.
C'est-à-dire, on a l'impression que chaque personnage est sur une planète, qu'il ne communique pas, enfin les planètes ne communiqueraient pas les unes avec
Non.
les autres.
Et puis comme chacun finalement réussit à faire ce qui l'intéresse dans son coin sans que les autres viennent trop l'embêter, à savoir que Massot fume sa pipe finalement tranquillement, boit son petit verre d'alcool en douce, que la mère fait ses aquarelles un peu en amateur comme ça, mais qu'elle a réussi à les faire et que tout le monde s'extasie devant ses aquarelles, que le personnage du soupirant continue à faire ses études astronomiques et puis à tomber amoureux de ses vedettes de la chanson. Finalement, personne n'embête vraiment personne et les gens continuent à vivre leur vie assez tranquillement.
Ce qui m'étonne, enfin c'est pas remarque étonnant, c'est probablement la ressource des grands burlesques, c'est qu'Etex pousse les logiques jusqu'au bout. C'est-à-dire que chaque personnage a une logique qui est poussée absolument jusqu'au bout. Et donc il construit en fait trois, quatre personnages, que le père, la mère, le fils, et chacun suit sa logique propre, mais bon, on dit bonhomme de chemin. Et on pourrait revenir donc sur ce personnage de soupirant qui effectivement accepte d'aller à la chasse aux fiancés. Il se plie en fait à ce qu'on lui demande de faire, sans y faire entrer aucune psychologie, aucun problème métaphysique, je dirais. Et alors, on va avoir des ressorts d'une logique incomplète qui vont se mettre en route. Alors ça, j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus. Et c'est peut-être un peu révélateur de la manière dont Etex travaille les gags, c'est-à-dire prendre une situation et la pousser dans un excès tel que on n'est plus ni dans le vraisemblable, ni mais on est toujours dans la réalité. C'est-à-dire, il ne cherche pas des situations vraisemblables, mais il poursuit des logiques jusqu'au bout. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ça?
Oui.
En prenant par exemple la manière dont il tombe amoureux de la star, la manière dont ce fétiche va être poussé à un excès,
Alors ça,
c'est incroyable.
c'est curieux parce que je revoyais d'ailleurs avec Etex l'autre jour 30 30 30 de Harry Langdon et il y a quand même de grandes ressemblances,
Oui,
c'est-à-dire que dans
tout à
30
fait.
30 30 le personnage qui a aussi un rapport un peu particulier avec les femmes,
Ouais.
est amoureux d'une affiche de publicité
Oui, tout
que
à fait.
par un extraordinaire hasard, il rencontre, puisque c'est la fille de l'organisateur de la course de
C'est
30-30-30.
John Crawford.
Oui, c'est John
Oui,
Crawford.
c'est ça.
Et donc,
Oui.
il est amoureux d'une photo. Et au point que dans la scène de l'hôtel, au moment où il soulève ses draps, elle est dans le lit, sauf que c'est pas elle, mais une affiche, quoi. Enfin, et le soupirant aussi collectionne les affiches et finit par rentrer chez lui en essayant d'être discret avec l'effigie en bois qu'il a volée à l'Olympia où passe la fameuse Stella. Et au moment où il va finir par pouvoir la rencontrer réellement, comme disait Brassens, il fait feu des deux fuseaux, c'est-à-dire qu'il prend la fuite immédiatement parce que s'apercevant que c'est un personnage réel, il ne peut plus, tout s'écroule, quoi.
Mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur la planète Mars, c'est-à-dire que le rapport à la réalité, il est bizarre. Alors, chez Harry Langdon, c'est le pire au lunaire, vraiment. Harry, on se demande demande, ce personnage surréaliste par excellence. Etex le paraît moins, mais en fait, c'est vrai qu'il y a une filiation très forte peut-être entre un Harry Langdon et un Etex.
Oui, sauf que Etex, la différence entre Langdon et Etex, c'est qu'il me semble que les personnages d'Etex sont rarement naïfs tout de même. C'est-à-dire qu'ils sont rêveurs, ils sont rêveurs, mais ils ne sont pas naïfs et ils ne sont pas si maladroits que ça. C'est-à-dire qu'il est quand même capable, avec toute sa naïveté, de sauter par une fenêtre du premier étage sans se faire mal et de rétablir énormément de situations de façon parfaitement maîtrisée. Et il a quand même une préhension sur la réalité qui est une véritable maîtrise.
Ouais.
Mais en continuant à suivre son idée et sans se plier au sens commun. Mais en échappant au sens commun, il est toujours dans la maîtrise quand même. Hein.
Est-ce qu'il est créateur de poésie?
Ce que Keaton aussi fait, c'est-à-dire que Keaton maîtrise très bien la réalité.
Absolument.
Mais Keaton n'a rien d'un ballot ou d'un empoté.
Bien sûr. Non, c'est vrai que, bon, à propos d'Harry Langdon, pour avoir vu Capra il y a des années venir présenter Milliardaire d'un jour, si je me rappelle bien, ou Milliardaire d'un jour, moi j'avais discuté avec Capra, et après la séance, il nous avait parlé d'Harry Langdon en me disant que c'était terrifiant parce qu'Harry Langdon était aussi lent dans la vie que ce qu'il était à l'écran.
Mmh.
Et je crois que c'est vrai que chez Harry Langdon, il y a quelque chose qui n'a pas de prise avec le réel, alors que chez Keaton ou Etex, il y a un principe de lucidité. C'est pour ça que je parlais de logique. Et il y a une maîtrise sur les éléments, il y a une maîtrise sur les techniques que tu dis toi-même. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cet aspect de nier le vraisemblable, peut-être aller justement dans un excès, qui est de la poésie, et en même temps bon, forcer la logique jusqu'au bout. Ça me semble que c'est tout à fait le comique des textes. Il essaye pas de... Tu cites toi-même d'ailleurs dans cette logique-là, le faux raccord de la fin
c'est les lumières de la ville.
Avec la main sur la bouche et la main dans le dos. Et effectivement, on n'en a rien à faire de coller au vraisemblable, parce qu'on sait très bien que la création poétique, le rire, il se situe ailleurs. Et ça, moi, je pense qu'Etex, il est complètement dans cette logique-là.
Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est pas une contradiction, parce que on parlait de critique sociale tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de méchanceté dans la critique sociale dans Le Soupirant. Il y en a peut-être un petit peu dans Yo-Yo, un peu plus dans Le Grand Amour. Et alors, par contre, la critique sociale explose dans Pays de Cocagne.
Et alors, qu'on avance un peu dans la...
Oui, c'est-à-dire que Etex n'est pas un naïf, Etex sait très bien où il va, et par sa maîtrise de la technique et sa maîtrise de... il est effectivement en train de chercher... comment dire, à atteindre son but, c'est-à-dire à faire rire, à faire rire les gens.
Ça, il y arrive, parce que moi, je me marre dans le soupirant, heureusement, d'ailleurs. Oui. Mais si tu veux, quand tu dis qu'il n'y a pas de critique sociale, par exemple, dans Le Soupirant, c'est sûr que le personnage de Stella, c'est aussi révélateur de ce qu'est la télévision, de ce qu'est... Il y a quand même le point de vue des textes sur ce qu'est la télé, par exemple. Et là, il l'affirme complètement
à travers ce personnage. Il n'y a pas de critique sociale dans la description de la famille, mais il y a effectivement une critique sociale dans le rôle de la vedette, de la star.
Il y a quelque chose qui est révélateur de la société quand même, un regard très lucide.
Bien sûr.
Et on pourrait peut-être en venir à Yo-Yo, parce qu'avec Yo-Yo, donc on le disait en début d'émission, c'est peut-être le film où il y a le plus de choses de l'enfance. Et en même temps, sur le plan esthétique, c'est le film le plus ambitieux.
Ah oui, certainement, oui.
Pourrais nous en parler, Yo-Yo?
Oui, je crois que ce qui est magnifique dans Yo-Yo, enfin ce serait le sujet d'une émission entière, Yo-Yo. Il y a le cadre, le travail du noir et blanc, le travail de la profondeur de champ, la disposition des personnages, des objets à l'intérieur du cadre. Il y a une espèce de science du cinéma que moi je trouve une science du cinéma que je trouve éblouissante. Et au-delà même du propos de tout ce qu'il dit de passionnant sur l'enfance, sur le cirque, sur la guerre aussi, sur l'ambition sociale, sur la réussite de l'artiste, au-delà même de tout ça qui est très intéressant, il y a un objet esthétique, visuel qui me semble absolument somptueux. Et un sens de la poésie, de l'étrangeté, par exemple l'utilisation d'éléphants, qui moi me semble inoubliable. C'est-à-dire que la façon dont il introduit l'éléphant comme étrangeté absolue, c'est vrai qu'un éléphant qui rentre dans un cocktail, on ne peut pas trouver plus étrange, rejoint.
C'est Marx, Marx dans un
Oui, et puis même, je ne sais pas, moi je pense qu'il y a certains tableaux du Tintoret, par exemple, où il y a un chameau au milieu de la place Saint-Marc, qui fait ressentir la même surprise et la même émotion poétique. Et ça, c'est très très fort. C'est très fort.
Alors, tu parlais d'un tableau du Tintoret, mais c'est peut-être une aubaine pour parler de l'œil très plastique
Bien sûr.
des textes. Et je crois que c'est sa science du dessin et de tout ce qui est plastique, et dont Yo-Yo, ça éclate
C'est
complètement.
vraiment un plasticien, c'est-à-dire que avant même d'écrire une histoire ou d'inventer un sujet ou un argument, il a des images dans la tête, et pas seulement des images, aussi des objets qui va, par exemple, dans Yo-Yo, le tableau qui représente un verre et une bouteille, où Philippe Castelli va pouvoir s'abreuver. C'est un travail gigantesque de décorateur, c'est les textes qu'il a fabriqués, quoi. Et il y a une maîtrise de la matière des objets qui est fabuleuse. Il y a la scène de striptease de Yo-Yo, où
La chaussure.
des mains de femmes délacent la chaussure du personnage principal du film, enfin du père de Yo-Yo. C'est une marionnettiste qui a prêté ses mains pour cette scène-là, et il y a 2 mois de répétition derrière.
Ça, elle est fabuleuse cette séquence. Mais alors elle est fabuleuse parce qu'il y a un travail énorme du point de vue, tu dis donc la marionnettiste qui a répété 2 mois. Mais alors le résultat érotique est
Oui,
fabuleux.
c'est phénoménal. C'est
C'est
certainement le
une des
plus,
plus
une des
belles
plus belles scènes
scènes
érotiques.
érotiques
Ah
de
oui,
l'histoire du
certainement.
cinéma. Ce qui fait d'ailleurs qu'il faudrait, il y a un aspect des textes qu'on n'a pas abordé, et moi j'avais lu des textes, notamment les petits mots inconvénients qu'il a écrits avec
Oui,
Ariel,
oui.
etc. Il s'intéresse beaucoup à l'érotisme. Et dans Yo-Yo, c'est absolument étonnant ce striptease.
Moi, je suis très surpris du fait que, par exemple, dans ce bouquin qui est par ailleurs très intéressant, qui est l'Encyclopédie du Nu au cinéma, qui est paru il y a quelques mois,
C'est rien.
il n'y a rien, ni à l'article striptease, ni à l'article pied, sur cette scène-là, qui pourtant, c'est plus la peine d'aller voir des films érotiques, c'est plus la peine d'aller voir des scènes de striptease, quand on a vu cette scène-là, qui est une perfection absolue. En plus, il pousse tellement loin l'ironie, qu'au moment où enfin la guêtre est tombée, la chaussure est délacée et on va enlever la chaussure, il y a un noir et on verra jamais le pied nu. Donc exactement comme dans une séance de striptease, au moment où la fille a enlevé son dernier voile, le noir se fait et il y a la déception du spectateur qui
Mais
verra jamais tout, quoi.
c'est ça, c'est-à-dire que là il fait fonctionner l'érotisme à fond, qui fonctionne plutôt sur l'imaginaire et la suggestion, plutôt que sur le rapport à ce qu'on voit. Sinon, c'est ça le problème de la limite du cinéma pornographique, c'est le voyeurisme. Et là, on s'anime vraiment au bord de l'écran, quoi.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est une chaussure délacée, et pourtant, bon, elle est bandante, quoi. On peut
Bien
dire autre
sûr, bien
chose.
sûr, absolument.
Et moi, je trouve que c'est
Alors,
une séquence incroyable.
d'une part, il y a une idée fabuleuse, et d'autre part, je répète, il y a un travail technique monstrueux, puisque quand il a réfléchi à ça, il s'est dit, il n'y a qu'un artiste spécialisé qui pourra me faire cette scène-là. Il n'y a pas un comédien sur Terre qui peut me délacer d'un seul mouvement sans jamais lever la main. La chaussure. Et il a été chercher une marionnettiste. Donc, il y a tout le temps l'exigence des gens qui font le mieux possible le travail qui leur est demandé et qui ne peuvent que répéter, jamais les textes à improviser quoi que ce soit dans aucun film.
Ça, c'est le perfectionnisme à la Bresson. Tu cites d'ailleurs
Absolument.
Etex
Il a
dans
joué, bien
Pickpocket.
sûr.
Bresson avait besoin de gens qui savaient se servir de
Parce que
leur
Etex
instrument.
m'a parlé pas mal de Bresson. De façon un peu effrayante, parce qu'il m'a raconté le tournage de Pickpocket, c'est vrai qu'on est un peu terrifié. Et en même temps, derrière cette façon un petit peu presque ironique dont il racontait à quel point Bresson était quelqu'un d'une cruauté inouïe avec les acteurs, il y a évidemment de l'admiration, parce que quand on fait 92 prises pour un seul plan, quand on tue les acteurs pratiquement à leur redemander 1000 fois de dire bonjour madame. Ça, il est évident que Etex est complètement dans cette lignée-là et que Tati aussi. Alors la différence étant probablement qu'il est probable que Bresson n'aimait pas beaucoup ses acteurs, alors qu'il est évident qu'Etex a beaucoup comment dire, d'amour pour les gens avec qui il travaillait et un grand respect, alors qu'il n'est pas sûr que Bresson respectait beaucoup les gens avec qui il travaillait, ni peut-être Tati, enfin, c'est pas tout à fait sûr. Mais Etex respecte évidemment les gens avec qui il travaille. Mais cela dit, ça fascine évidemment Etex, ces gens qui...
Alors, on pourrait, à propos du Yo-Yo, pour en finir avec eux, si tant est qu'on puisse parce que c'est un film, tu disais, un film superbe, c'est vrai. Là, il y a cette espèce d'irruption de l'histoire, c'est-à-dire ce personnage, les personnages des textes, on pourrait croire qu'ils sont intemporels, venus de l'éternité ou de la planète Mars, et tout d'un coup, il y a cette séquence où le petit clown est emmené par les nazis pour être fusillé, avec d'autres. Donc, tout d'un coup, il y a l'irruption de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre, des soldats.
C'est-à-dire que tout d'un coup, on empêche l'artiste de rêver et on rallume la lumière pendant le spectacle. C'est-à-dire que c'est le coup de pistolet dans le concert. C'est-à-dire que pendant que l'artiste travaille, pendant que les choses se font normalement et que les gens se consacrent uniquement à leur métier d'artiste, à leur travail d'artiste, tout d'un coup, il y a un fusil qui apparaît dans la salle et puis on rallume la lumière et puis le clown lui-même est emmené prisonnier par des soldats qui lui pointent une mitraillette sur les reins, quoi. Et donc, c'est la façon dont l'enfant est troublé dans sa contemplation, dont l'artiste est troublé dans son travail, la façon dont le monde matériel, dans tout ce que ça peut avoir d'agressant et de cruel, empêche le bon déroulement du plaisir, simplement, du spectacle, du rire. Et à un moment donné, on n'a plus le droit de rire parce qu'il y a quand même des soldats allemands dans la salle, quoi.
Alors, j'ai l'impression, moi j'avais le souvenir de Yo-Yo que j'avais vu en fait il y a très 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 longtemps. Il me semble au cinéma Rivoli, justement, cinéma dont Tati était le parrain, cinéma qui a sauté au cours d'un attentat antisémite, tout le monde, un festival de films juifs, enfin bref. Et je me rappelais surtout des noirs et blancs du film, et je me demandais si ce film je l'avais rêvé ou pas. Et en revoyant Yo-Yo, on a très fortement l'impression d'un rêve, c'est-à-dire qu'il y a une structure narrative un peu comme un rêve, et puis tout d'un coup, bon, c'est vrai, cette espèce de brusquerie de retour à la réalité par moment. Donc,
et il y a pas, en plus, la réalité, c'est pas seulement la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi la crise de 29.
Oui, la crise de 29.
Puisque les usines, le chômage, et tout ça étant pas du tout raconté de façon réaliste, puisque c'est vrai qu'il n'y a rien de moins réaliste que des soldats allemands sur une route de campagne avec un clown qui a gardé son costume et son nez rouge et qui marche en canard parce que ses chaussures sont trop grandes.
Non, il y a une stylisation comme ça, choses des échafaudages qui s'écroulent au moment de la crise de 29. Alors, 29, c'est à la fois le cinéma qui vient parlant. Et tu pourrais nous en dire plus par rapport à Yo-Yo ?
Oui, c'est-à-dire que le film est non pas... Enfin, c'est un film sonore, mais il n'y a pas de dialogue tant que la situation est avant le cinéma parlant. Et tout d'un coup, on entend une voix qui dit « Et bientôt, le cinéma devint parlant. » Et pof, ça démarre. Et effectivement, ça correspond au crack de 29. Et... dans son déroulement historique, Yo-Yo suit aussi l'évolution du cinéma et de la télévision à la fin.
Tout à fait.
Et de la télévision, puisque Yo-Yo finit par faire de la télé. Mais c'est toujours de façon complètement onirique. Tu sais qu'on voit un rêve. Oui, ce film-là est un rêve.
C'est-à-dire c'est ce qui déphase dans Yo-Yo, c'est-à-dire que... On ne sait pas très bien où on est, déjà le lieu est assez incroyable.
Ouais, qui était déjà une copie en plus, ce château, et la copie de l'hôtel de la Légion d'honneur à Paris, qui a été fabriqué au début du siècle par un milliardaire qui voulait faire plaisir à sa femme et qui a reconstruit un château qui existait déjà à Paris, 50 fois plus grand, avec un parc somptueux.
Alors c'est drôle parce que je sais pas pourquoi le château du Yo-Yo me fait penser au château du Roi et l'Oiseau, de Grimm.
Ah oui, c'est...
Il y a, je trouve que dans l'architecture, il y a des choses un peu comme ça.
C'est un château immense. C'est un château où il y avait 200 pièces, quoi.
C'est immense.
Et les techniciens se perdaient pendant le tournage. C'est-à-dire qu'on, Etex raconte, et Clodon raconte aussi, qu'on voyait de temps en temps une tête apparaître à une fenêtre, disant « Venez me chercher !» Je sais plus, je n'arrive plus à sortir. J'arrive plus à sortir.
Alors c'est très drôle parce que à chaque fois, donc il y a tout un tas de gags au début qui révèlent justement le lieu, l'espace du lieu, avec notamment tous ces serviteurs, ces laquais, etc. Bon, c'est absolument, c'est du grand burlesque. Hein. Moi je trouve que c'est de la très haute tenue burlesque, mais c'est complètement des gags qui révèlent justement ce qu'est le lieu. Et en même temps, ce lieu est complètement incroyable. On ne sait pas très bien où on est, parce que des grands châteaux comme ça, on n'a pas trop l'habitude. Et c'est absolument dément de faire un film dans un lieu pareil. Alors, ces espèces de... Donc il va y avoir... Tout le film va se dérouler comme ça, dans ce lieu somptueux. Et en fait, il va tourner de plus en plus le dos, le personnage, à ce lieu. Parce qu'il s'en sépare, c'est l'histoire de la séparation de ce lieu.
Ben, attention, il s'en sépare parce qu'il y a la crise de 29 qui l'est ruinée, qu'il est obligé de quitter son château, qu'au moment où il décide de se pendre, comme les huissiers sont là et qu'ils emmènent la chaise, il ne peut pas se pendre. Et donc, à ce moment-là, le personnage va partir sur les routes et va retrouver le petit garçon qu'il a fait à une écuyère un peu par inadvertance. Et c'est ce petit garçon-là qui deviendra Yo-Yo. Et donc, ce petit garçon-là passera sa vie à... deviendra un grand clown, voudra reconstruire le château de son père, deviendra riche, et au moment où le triomphe arrivera, l'éléphant viendra le chercher et
il
pourra,
il tourne le dos, voilà, quand
il pourra prendre la fuite de ce monde qui est faux et qui est...
C'est ça, le dernier moment quand il parle avec l'éléphant et qu'il tourne le dos, il tourne le dos à ce monde d'artifice complètement incroyable qu'est le château. C'est-à-dire que c'est le cirque et le monde de la poésie, le monde de l'art, et c'est l'affirmation qu'Etex a de l'art probablement, contre le monde de l'argent, des richesses, etc.
La recherche d'un anonymat que Etex a toujours cherché, que Henry Miller traite de façon magnifique dans Le Sourire au pied de l'échelle. Et à un moment donné, Etex est parti faire du cirque sur les routes de France, et personne ne savait que c'était Pierre Etex. Il a passé plusieurs mois avec un cirque, et il débarrassait la piste, il enlevait le sable, il donnait à bouffer aux lions, il était clown et personne ne savait que c'était Pierre Etex. Il y a une recherche de l'anonymat, de la pureté, qui est une recherche assez mystique et qui en même temps... Mais qui est en même temps une recherche de l'authenticité. Il y a un grand refus de tout ce qui peut être les mondanités ridicules qu'on voit dans Yo-Yo.
Oui, alors ça c'est... Bon, il faut voir le film, bon, j'espère que Yo-Yo... j'espère qu'on pourra voir les films des textes.
Oui, on suppose qu'en 95, on va pouvoir revoir les films.
On pourrait avancer un peu